La revue de presse internationale. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour.
On débute avec ce que l'on pourrait appeler le retour de la chloroquine.
Oui, c'est sans doute le dernier clou dans le cercueil de l'étude parue dans la prestigieuse revue médicale de Lancet le 22 mai dernier et qui présentait l'emploi de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine comme potentiellement dangereuse, les malades du Covid-19 traités par ces molécules ayant statistiquement plus de chances de décéder que les autres. Eh bien, The Lancet a publié ces dernières heures une rétractation signée par 3 des 4 auteurs de la publication originale. Ceux-ci se sont révélés en effet incapables de faire réaliser un audit des données qui constituaient la base de leur étude statistique et partant ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus en garantir la véracité. Alors ce qui est en cause, c'est effectivement les sources de la fameuse étude qui repose sur les dossiers médicaux de plus de 95 000 patients malades du Covid-19 et traités dans 671 hôpitaux de par le monde, 15 000 d'entre eux ayant été traités à l'hydroxychloroquine ou à la chloroquine. Des dossiers médicaux agrégés par une société privée, surgissent dont le 4e auteur de l'étude n'était autre que le PDG. Or, celui-ci se refuse obstinément de révéler ses sources, notamment les hôpitaux auprès de qui les dossiers médicaux ont été collationnés. Dans un long papier d'analyse, The Guardian, dont l'édition australienne avait été la première à mettre en doute les données recueillies par Sugisphere, The Guardian raconte comment la vaste base de données de cette petite compagnie totalement inconnue, appelée Sugisphere, a pu influencer et même modifier les politiques de santé mondiale. C'est en effet à la suite de la publication de l'étude Sugisphere dans The Lancet que l'Organisation mondiale de la santé avait suspendu son expérimentation de traitement à base de chloroquine avant d'annoncer sa reprise ces derniers jours. Alors tout ça ne veut pas dire pour autant que chloroquine et hydroxychloroquine se trouvent réhabilités comme traitement. D'ailleurs, une autre étude clinique, celle-là, randomisée et en double aveugle, et conduite par l'Université du Minnesota, vient à son tour d'être publiée dans le New England Journal of Medicine. Elle conclut que la prise d'hydroxychloroquine à titre prophylactique ou préventif, si vous voulez, n'empêche nullement de contracter la maladie.
Bon, et puis loin des controverses scientifiques et médicales au Maghreb, on se demande si la guerre en Libye n'est pas en passe d'être gagnée par le camp du gouvernement d'accord national.
Tout le monde, ou presque, s'accorde en tout cas pour considérer la perte de la zone de l'aéroport de Tripoli comme un très très sérieux revers pour les forces du général Haftar. Le gouvernement reconnu internationalement et conduit par Fayez al-Sarraj revendique en effet la libération de toute la zone urbaine de Tripoli et cela semble confirmer la tendance générale. Haftar est clairement sur la défensive, écrit par exemple le Libya Herald, après avoir perdu les villes côtières de Sourman et Sabratha en avril, ainsi que la base aérienne de Vitiya en mai. L'intervention turque, avec sa puissance aérienne aux côtés du gouvernement, est clairement ce qui a renversé la vapeur et permis ses victoires, souligne le quotidien en ligne. Le premier ministre du gouvernement d'accord national, Fayez al-Sarraj, est justement en Turquie actuellement où, rapporte le Hürriyet Daily News, on lui a promis encore davantage d'aide matérielle et militaire, assure le journal. Mais le président turc Erdogan a également rappelé à Fayez al-Sarraj que le soutien militaire turc se double d'un accord quant à l'exploitation par la Turquie de possibles gisements d'hydrocarbures dans les eaux libyennes. Il faudra renforcer notre coopération, notamment concernant l'exploration et les forages, a ainsi indiqué le président turc cité par le journal. Quant au général Haftar, il a lui aussi quitté le champ de bataille libyen pour aller prendre conseil et peut-être chercher de l'aide chez son allié égyptien. Il doit notamment voir au Caire le président Abdel Fattah al-Sissi et ses principaux généraux, révèle le quotidien saoudien Ashark al-Awsat. Les deux parties au conflit libyen, le général Haftar et le premier ministre Fayez al-Sarraj, ont normalement convenu de reprendre des pourparlers de paix sous égide onusienne. Mais au sortir de son entretien avec le président turc Erdogan, le premier ministre al-Sarraj annonçait à la presse qu'il était déterminé à reprendre le contrôle de toute la Libye par les armes.
Et puis enfin aux États-Unis, Eric, c'est la relation des militaires avec leur commandant en chef, en l'occurrence le président Donald Trump, qui est aujourd'hui en question.
Oui, après la sortie tonitruante du général James Mattis, l'ancien secrétaire à la défense de Donald Trump, qui publiait mercredi dans plusieurs journaux américains, dont The Atlantic, une sorte de lettre ouverte dans laquelle il fustigeait l'incompétence et l'absence de leadership du président américain, Nombre d'autres militaires, en retraite hein, très souvent, sont montés au créneau pour dénoncer à leur tour les velléités présidentielles de déployer l'armée face aux manifestations de rue dans le pays. Dans le quotidien politique The Hill, par exemple, le général Jim Dubik prévient, en matière de maintien de l'ordre comme en matière de tactique militaire, la ligne est étroite qui sépare la fermeté de la bêtise. Et il faut se garder de vouloir la franchir. En clair, poursuit-il, les manifestations, il faut apprendre à les gérer et non pas foncer dans le tas.
Merci beaucoup, Éric Biégala.